Nous avons commencé la semaine dernière à parler de cette prophétie d'Amos. Nous avons dit que ce n'était pas un professionnel de la religion, entre guillemets. Il n'avait pas fait des études de séminaire ou d'école biblique, mais il avait été appelé par Dieu lui-même. Et Dieu l'appelait à donner un message à Israël. On a rappelé, et on le rappelle chaque fois, quand on parle des prophètes, qu'après David et Salomon, le royaume avait été divisé en deux parties. Il y avait le royaume de Juda, le royaume du sud, avec Jérusalem pour capitale, qui rassemblait les tribus de Juda et Benjamin, et puis le royaume du nord, avec pour capitale Samarie, qui regroupait les autres 10 tribus, la plus grande étant Éphraïm. Et nous avons essayé de visualiser un peu ce prophète parlant devant les responsables religieux dans la ville de Bethel, qui veut dire la maison de Dieu en hébreu, où il y avait un culte idolâtre qui s'était installé. Le roi Jéroboam, qui s'était installé au nord, ne voulait pas que son peuple redescende à Jérusalem de peur de détruire ce royaume indépendant. Et donc il avait décidé d'établir un culte dans son propre royaume. Et la principale ville, c'était Bethel, où il y avait un homme qui faisait office de grand prêtre, le prêtre Amatsia, et quand Amos avait commencé à prêcher, au départ les Hébreux, les Juifs du royaume du Nord étaient plutôt intéressés. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient du mal, ils parlaient du jugement qui allait tomber sur les villes et les peuplades qui les entouraient. Et on a vu dans les deux premiers chapitres 8 jugements. Il y a un jugement qui tombait sur Damas, donc une prophétie de jugement sur Damas, la Syrie, sur Gaza, les Philistins plutôt. Un jugement sur Tyr, c'était les Phocéens, les Phéniciens. Un jugement sur Édom, sur Amnon, sur Moab, sur ces peuplades que les Juifs n'aimaient pas du tout parce qu'ils leur avaient causé des problèmes tout au long de leur histoire. Donc là, les gens étaient là, ouais, super, ça c'est des bonnes nouvelles. Ils vont en prendre plein la figure, alléluia. Et puis, Amos était du royaume du sud, de Juda, mais Dieu l'avait appelé à prophétiser pour le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et on a vu qu'au début, après ces 6 nations, il commence à prophétiser contre la nation de Juda. Il reprend cette expression qui est répétée à chaque fois, « À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, et je ne reviens pas sur ma décision », parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses prescriptions, parce qu'ils ont été égarés par des idoles mensongères que leurs ancêtres avaient adorées, j'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, son auditoire à Bethel commence à être un peu mal à l'aise, parce que ça commence à tomber près d'eux. Le royaume du sud, c'était leur ancien royaume avec David et Salomon. Mais il ne leur laisse pas le temps de partir. Il continue en disant, voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Et là, il commence à prononcer un jugement sur Israël même. Et c'est à ce moment-là que On l'a lu dans le chapitre 7, en sautant un peu dans la lecture chronologique. Le grand prêtre lui dit, écoute, tes histoires imbéciles, tu peux aller les raconter chez toi, mais fiche le camp d'ici. Alors il dit, visionnaire, va-t'en. Espèce de prophète à la noix. On sait que Amos, en fait, c'était un cultivateur. Il élevait des moutons. Et aussi, il faisait pousser des figues dans des sycomores. Des sycomores, des figues, ce n'était pas les meilleures, mais donc c'était un paysan qui n'avait aucune formation théologique. Et Amasia lui dit, visionnaire à la noix, là, visionnaire ou prophète à la noix, va raconter tes histoires dans ton pays. Mais arrête de prophétiser à Bethel. Pourquoi ? Parce que c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Ils étaient très fiers de leur attachement au roi et le soutien du roi du Nord. Et donc, il n'apprécie pas. Donc, au bout du compte, il y a 8 jugements qui sont prononcés sur cette région du monde qui aurait dû être la première à respecter et à louer Dieu dans la vérité de sa parole et des révélations que les prophètes et Moïse avaient données. Et puis, on arrive au chapitre 3. Et là, on change de ton. On va entre les chapitres 3 à 6, on va avoir 3 sermons de jugement. Dieu va expliquer d'abord le présent d'Israël, les problèmes qu'ils ont. À partir du chapitre 4, on voit qu'il parle un peu du passé d'Israël. Et puis à partir du chapitre 5, et jusqu'au verset 6, ça va être le futur d'Israël, le jugement qui vont tomber sur Israël. Et puis le livre continuera par 5 visions de jugement. Vous les connaissez pour certains, mais on y reviendra. Suivi de 5 promesses de restauration d'Israël. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Il juge non pas pour se venger et se faire du bien, mais toujours en vue de faire que son peuple revienne à lui. Et comme on souligne à chaque fois, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une histoire qui s'applique à nous. Nous aussi, nous pouvons, si vous l'avez remarqué, nous pouvons nous éloigner de Dieu. Nous avons tendance à nous égarer dans notre rébellion naturelle, dans notre vieille nature. Nous sommes opposés à Dieu et nous avons 3 ennemis, Satan qui contrôle le monde, ce système de valeurs qui rejette Dieu, qui est tout autour de nous. Et puis ce monde, il a de l'écho en nous parce que nous avons cette vieille nature qui s'oppose à l'esprit qui est en nous. Et ces 3 ennemis font que souvent nous sommes tentés par le péché, et ce n'est que de l'autre côté de l'éternité que nous serons débarrassés de cette tentation du péché. Nous avons été délivrés de la punition du péché par le sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes progressivement délivrés de la puissance du péché. Nous pouvons lui résister. Nous avons toutes les armes pour dire non au péché. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. Nous n'avons pas besoin de nouvelles méthodes. Tout ce dont nous avons besoin est là. Et un bon principe, lorsque vous entendez des nouvelles choses, c'est de vous dire que si c'est nouveau, ça n'est pas vrai. Et si c'est vrai, c'est que c'est pas nouveau. Ça enrage les faux prophètes même aujourd'hui. Ceux qui arrivent avec des nouvelles choses formidables qui vont vous révéler parce que jusqu'à présent, votre pasteur, en lisant la Bible, vous a raconté que des vieilles choses. C'est dépassé tout ça. Il faut s'adapter à notre nouvelle civilisation. La société a évolué. On a maintenant Internet, on a Facebook, on a toutes ces choses. On peut voyager en quelques heures ou jusqu'au bout de la Terre. On peut aller jusqu'aux extrémités de la Terre et en revenir sain et sauf. N'est-ce pas, Nathanaël ? Alors, non. Un bon principe, c'est que toute la révélation dont vous avez besoin a été donnée ici. Deutéronome 29, 28. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous a pas révélées, qu'on ne comprend pas, mais il nous en a donné tellement que nous pouvons saisir et auxquelles nous pouvons nous attacher fermement. Les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées nous appartiennent. Et c'est celle-là qu'il faut partager avec les autres. N'essayez pas de trouver une nouvelle façon de vivre la relation avec Dieu. Tout est là. Creusez, appliquez, vivez, et vous verrez la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Alors, là, on va voir au chapitre 3, on va lire ensemble. Lisons le chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau, tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait d'appât? Le filet se referme-t-il sans avoir pris quelque chose? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne pourrait ne pas prophétiser? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais de l'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quel immense désordre au milieu d'elles, quelle violence s'y commettent. Ils ne savent pas agir avec droiture, déclare l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais le produit de la violence et du pillage. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, l'ennemi encerclera le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Voici ce que dit l'Éternel, le berger ne peut arracher à la gueule du lion que deux jambes ou un bout d'oreille, et c'est ainsi que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et donnez cet avertissement à la communauté de Jacob, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de l'univers. Le jour où je punirai Israël pour cette transgression, je frapperai sur les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont par terre. Je démolirai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire seront détruits, les maisons des grands disparaîtront, déclare l'Éternel. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce. Il va reprendre cette phrase à chaque fois qu'il commence un de ces trois sermons dont nous avons parlé jusqu'au verset 6. Ce premier message, c'est un message d'explication. Le jugement d'Israël est certain. Et Dieu même s'il est en dehors du temps, de l'espace, il n'est pas en dehors de la logique. Dieu va expliquer pourquoi il doit punir son peuple. Et il va nous donner, en fait, il va nous parler de quatre appels. D'abord, Dieu a appelé Israël. Les Israélites, c'est la famille que Dieu avait fait sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, pour l'Ancien Testament, c'est l'équivalent du travail de Jésus à la croix. C'est la grande rédemption. C'est le grand rachat de l'esclavage. Eux, ils étaient esclaves physiquement des Égyptiens. L'homme, au naturel, est esclave du péché. Et la sortie d'Égypte, c'était la grande rédemption du peuple d'Israël. Ils étaient sortis de l'esclavage. Et Jésus-Christ, lorsqu'il nous offre son sacrifice, que nous pouvons l'accepter ou le refuser, si nous l'acceptons, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Alléluia. Vous n'êtes plus, si vous connaissez Jésus-Christ, vous n'êtes plus obligés de pécher. C'est formidable et en même temps c'est très, très difficile à recevoir parce qu'on sait qu'on continue à pécher. Et en fait Dieu nous dit par sa Bible, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ et que vous continuez de pécher, c'est parce que vous le voulez bien. L'Oréal dit, c'est vous le méritez, je crois, vous le méritez bien, ou je ne sais plus, la publicité. Dieu nous dit, si vous continuez de pécher, c'est que vous le voulez bien. Ne blâmez pas la télévision, ne blâmez pas vos voisins, ne blâmez pas le gouvernement, ne blâmez pas la société, la libéralisation des mœurs, etc. Ne blâmez pas les lois. Si vous péchez, c'est que vous l'avez bien voulu et vous devez le réaliser. Il les avait choisis. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est ce qu'on appelle des fois la doctrine de l'élection. C'est Jésus, c'est Dieu qui choisit. Et c'est toujours une source de controverse. Parce qu'on a tendance à dire, mais c'est pas juste. D'abord, pourquoi est-ce qu'on s'attendrait à ce que Dieu soit juste? Vous n'êtes jamais demandé cette question. L'enfant qui dit c'est pas juste, il dit en fait il y a un Dieu qui fait que la justice doit être récompensée et le bien doit être récompensé et le mal doit être puni. Et ça c'est au fond de nous. C'est un argument que vous pouvez utiliser avec vos voisins, vos familles qui ne croient pas en Dieu. D'où vient ce sentiment d'injustice? Si c'est pas Dieu qui l'a mis dans votre cœur et dans le monde, dans l'univers. Ils ont ce sentiment. Ils ont été choisis. Et donc, ils ont reçu un grand privilège. L'appel d'Israël, il a été plein de grâce. Il n'y avait pas des raisons intrinsèques pour lesquelles il devait choisir Abraham et sa descendance pour atterrir dans la race humaine. Si Dieu voulait s'incarner, est-ce que vous y avez déjà pensé, il fallait qu'il trouve quelqu'un? Il aurait pu tomber du ciel et être un grand gaillard, tout beau, tout parfait. Non, il a choisi de s'incarner, ça veut dire de se mettre dans la peau des hommes. Il s'est mis un costume d'homme pour nous montrer comment l'homme pouvait vivre pour Dieu. Et donc il s'est incarné, et pour s'incarner, il fallait qu'il vienne dans une famille, il fallait qu'il vienne dans un groupe d'hommes, et j'aime bien dire qu'il aurait dû, pas qu'il aurait dû, mais qu'il aurait très bien pu choisir l'Écorce. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant de voir qu'en Corse, il y a plein de noms juifs. C'est une grande fierté pour moi qui suis d'origine corse de savoir que les Corses ont toujours bien traité les Juifs. et que quand il y a eu des grandes persécutions du peuple juif en Espagne, après le Moyen-Âge, ils sont venus s'installer en Corse. Et les Simeoni, les Giacobbi, tous ces noms-là qui sont si communs en Corse, c'est des noms de Simeon, de Jacob, ce sont tous des noms d'origine juive. Parenthèse refermée, il n'a pas choisi les Corses ont choisi les Juifs et les ont aidés. Il aurait pu choisir les Bretons, il aurait pu choisir les Suisses, il aurait pu choisir les Helvètes, il a choisi les Juifs. On ne sait pas exactement pourquoi, encore une fois ce sont des choses cachées, mais le fait est qu'il les a choisis. Parmi toutes les autres nations de la terre. Et souvent, on se dit, chouette alors. D'abord, cet appel, il était gracieux. Ils n'avaient rien qui méritait d'être choisi, a priori. Il les a choisis avec des résultats, parce qu'il les a fait sortir de l'Égypte. C'était un appel exclusif. Il n'a pas appelé les Corses, ni les Bretons, ni les Helvètes, il a choisi les Juifs. Et on a tendance à penser que si on est choisi, c'est qu'on vaut mieux que les autres. Alors souvent dans la vie humaine, quand on est choisi pour être sur l'équipe de basket de Nathan, c'est qu'on joue bien en basket. Je dis ça parce qu'il a les pieds sur un ballon de basket. Ça devrait être le foot en ce moment, Nathan. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est la Suisse contre la France? Refermons la parenthèse vite, vite, vite. On pense qu'on va être mieux traité, on va être traité moins durement si on a été choisi. Mais dans l'économie divine, c'est pas le cas. La mesure de nos privilèges, elle est en fait la mesure de nos responsabilités. Luc dira, ou plutôt Jésus dira, « Qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. » Luc 12, 48. Le privilège, ça entraîne la responsabilité. Et j'essayais de penser justement au foot en ce moment. Et je me disais que si on est sélectionné par Deschamps, il va attendre de nous qu'on se donne au fond, à fond plutôt, à fond de ballon, au fond et à fond. Le fait d'être choisi, ça implique une plus grande responsabilité. Et cet appel, il est vrai pour nous aussi. Nous ne sommes pas nécessairement, il y en a peut-être parmi nous qui ont des origines juives, mais il y a beaucoup de gentils, de païens, qui n'ont pas de racines juives, mais qui ont été choisis. Jésus dira dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Intéressant, c'était un passage étudié pendant la cérémonie du mariage. Mais cette idée qu'on est choisi par Dieu, même si on n'est pas juif, si vous êtes venu à Christ et que Dieu, dans sa connaissance éternelle, savait que vous répondriez à son appel et il nous a pour ainsi dire choisis, mais il ne nous a pas choisis pour nous chouchouter. Il nous a établis afin qu'on aille porter du fruit et que ce fruit demeure. Et donc, il y a une plus grande responsabilité et on doit en être conscient. Et parce que, et ça c'est logique, et c'est le verset 2 qui explique cette logique, « Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre, C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Si vous avez été choisi par Dieu, vous ne devriez pas être surpris que Dieu vous discipline. Le Nouveau Testament nous explique bien que Dieu discipline ceux qu'il aime. Le fait que vous soyez des enfants de Dieu, ça explique qu'il veuille vous discipliner. Vous êtes peut-être trouvé en présence d'enfants qui n'étaient pas les vôtres et qui se comportaient de façon horrible. Bien souvent, on a envie de leur donner une bonne fessée, mais vaut mieux pas. Et c'est seulement nos enfants que nous devons discipliner. Après, pour les enseignants, il y a une discipline à exercer, bien sûr. Mais si on ne vous a pas confié des enfants, ce n'est pas bon de toucher, de les discipliner, de les toucher en jugement, en réprimande, en correction. Par contre, si vous aimez vraiment vos enfants, vous allez les corriger pour leur bien. Et je me souviens, quand je disciplinais mes enfants, à l'époque, il y avait moins de tabous sociétaux imposés. On pouvait leur donner une fessée et on nous disait que c'était mieux d'utiliser une cuillère en bois, par exemple, pour leur taper sur les fesses, plutôt que la main. La main est faite pour aimer, pour donner, pour bénir. Et souvent, sur des couches culottes, la cuillère en bois, elle faisait pas mal. Et combien de fois Sébastien, qui était sans doute celui qui avait le caractère le plus rebelle, j'ai même cassé des cuillères en bois sur ses couches culottes, et il continuait de rire, il dit « ça fait même pas mal ». Dieu nous discipline, il va intervenir parce qu'il nous a choisis. Et puis, il explique qu'un deuxième appel, c'est que Dieu a appelé Amos. Et là, il y a ces questions qui semblent un peu des proverbes, semblent intéressantes. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Est-ce que le lion rugit sans avoir une proie? Et à chacune de ces questions, si vous les regardez bien, la réponse est bien sûr que oui, il faut, ou bien sûr que non, on ne marche pas ensemble si on ne s'est pas mis d'accord pour un point de départ, pour aller à un endroit. Lorsqu'on fait des randonnées avec des groupes de l'église, on se donne rendez-vous généralement à la station BP et on dit qu'on va aller à Toudon et de là on va partir. Donc on se met d'accord. Et l'idée, c'est que toutes ces questions, il y a un rapport entre la cause et l'effet. L'oiseau, il va pas tomber dans un filet s'il n'est pas attiré par un appât, bien sûr que non. Est-ce qu'on sonne de la trompette sans que ça fasse peur aux gens? Si vous entendez une sirène en plein jour, normalement, c'est aujourd'hui, on entend ça lorsqu'il y a des incendies dans la région qui menacent la ville. Il y a un code qu'on a tous oublié, mais parce que maintenant on a d'autres moyens de communication. Mais je ne sais plus si c'était 5 coups de sirène, c'était la guerre avait été déclarée. Alors ça paraît un peu désuet, mais on imagine la peur, l'épouvante des gens quand ils entendaient ces 5 coups de sirène en 1914 pour dire ça y est, il fallait partir au front, il y avait la mobilisation générale et on sait malheureusement la suite tragique de ces coups de sirène. Et puis il y a ce verset qui pourrait être un bon sujet de philo si l'éducation nationale n'était pas si anti-Dieu. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et certains prennent ce verset pour dire que ça veut dire que tous les malheurs viennent de Dieu. Alors c'est vrai que Dieu est tout-puissant, et Dieu peut empêcher que les malheurs arrivent s'il le désire, mais il nous laisse aussi à notre libre arbitre et aux conséquences de notre libre arbitre. Et dans ce cas-là, c'est, c'est l'inconvénient, encore une fois, d'extraire un verset hors de son contexte. Ce verset, il est dit dans un contexte précis. C'est le jugement qui tombe sur Israël. Et ça, c'est pour dire que lorsqu'en l'an 722, l'Assyrie va venir emmener en exil le peuple d'Israël, c'est parce que c'est un jugement de Dieu. Mais n'allez pas utiliser ce verset pour savoir si Dieu est responsable de tous les malheurs qui arrivent sur la terre. Le monde tel qu'il est, avec tous les malheurs qui le frappent, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu le veut, c'est le monde tel que l'homme l'a rendu. Même les catastrophes naturelles, elles sont un fruit du péché d'Adam et Ève. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul.
Oh, c'est pas Paul.
Non, c'est tout le Nouveau Testament qui nous explique que Dieu respecte, nous respecte comme des agents ayant leur décision propre. On pourrait être tous des marionnettes et dire « Ah là là, Dieu est... » Non, pour qu'il y ait, il veut notre amour. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait la liberté de dire non. Et lorsque l'on dit non, il s'ensuit des conséquences logiques et naturelles. Entre guillemets, naturel ou spirituel, établi, réel. Et donc, ce verset, n'allez surtout jamais l'utiliser pour dire que Dieu est responsable de tous les malheurs. Il sait ce qui se passe, il pleure lorsqu'il nous voit récolter les conséquences de notre péché, mais ce n'est pas lui qui est l'auteur, nécessairement. Encore une fois, il peut utiliser des circonstances tragiques ou difficiles pour nous discipliner, mais toujours dans le but de nous reprendre et nous ramener à lui. Et puis il dit, en effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Là aussi, on extrait souvent ce verset de son contexte. Là, il veut dire que il va faire ces choses-là et il m'a appelé, moi, Amos, berger, éleveur de bétail et cultivateur de sycomore, vendeur de figues et de brebis. Alors c'est vrai qu'il y a une généralité, que généralement le Seigneur annonce ce qu'il va faire à l'avance par des prophètes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a même des passages qui disent que Dieu a fait certaines choses sans avoir révélé certaines choses par des prophètes. Je vais voir, j'ai un passage Éphésiens 3:5 par exemple. C'est Paul qui parle du plan de Dieu. Et il dit, verset 3 du chapitre 3, « C'est par révélation d'Éphésiens qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Le mystère, c'est quelque chose qui était caché jusqu'à ce moment et qui est révélé. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc il dit qu'en fait le mystère de l'Église qui rassemble les juifs et les non-juifs, c'est quelque chose qui n'avait pas été révélé par les prophètes, et c'est Paul qui lui reçoit la révélation. Alors on pourra dire que c'est Paul qui est le prophète, mais il y a d'autres passages qui expliquent aussi que Dieu fait des choses des fois sans que les prophètes l'aient annoncé. Encore une fois, c'est important de voir le contexte des versets. Et moi-même, j'ai tendance à prendre ce verset et à dire, bon, ben là, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, c'est parce que Dieu l'a annoncé par cette personne, ce prophète. Pas nécessairement. On doit laisser à Dieu la liberté de nous surprendre. Amen. Il continue en disant Donc, il dit qu'il a été appelé par Dieu, le lion qui rugit, le Seigneur parle, lui parle. Il ne peut pas ne pas prophétiser. Rappelez-vous, il est devant cette foule hostile dans le temple à Bethel. Et il dit, je suis désolé, je n'ai pas fait d'études, mais le Seigneur parle, je ne peux pas ne pas prophétiser, pas dire ce qu'il me dit de vous dire. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur vous dit de dire des choses ? J'ai bien aimé quelqu'un qui parlait, qui voulait se demander si Dieu voulait qu'elle parle à une personne. Cette personne voulait savoir si elle devait le faire ou pas. Et elle a fait une petite test. Elle a dit, Seigneur, si la personne fait ça et ça, je saurai que c'est de toi. Et donc Dieu peut parler et nous donner confiance pour partager son message. Quand le Seigneur nous parle, on ne peut pas se tenir tranquille. Puis Dieu appelle des témoins. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais de l'Égypte. Et dites, assemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quel immense désordre au milieu d'elles, quelle violence s'y commettent. Le message du jugement d'Israël est communiqué aux nations qui les entourent. Les nations alentours doivent réaliser que Dieu juge. Et verset 10, ils ne savent pas agir avec droiture, déclare l'Éternel. Ils entassent dans leur palais le produit de la violence et du pillage. Dieu fait savoir aux nations qui entourent Israël et Juda, parce qu'il s'agit de toute la famille. Donc là, c'est Israël et Judas sont rassemblés quand il parle de toute la famille qu'il a fait sortir d'Égypte. Ils ont tellement commis de péchés qu'ils, même s'ils voulaient, ils ne savent plus comment agir droit. Ça, c'est terrible de penser qu'à force de se détourner des voies de Dieu, on peut se retrouver à ne même plus pouvoir faire ce qui est juste, ce qui est droit. Et leur grand péché, c'était qu'ils entassaient dans le palais le produit de la violence et du pillage. Ils étaient violents, ils étaient égoïstes, ils étaient pleins d'appât du gain. Et donc, la logique de Dieu, Dieu va maintenant appeler le jugement. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, verset 11, l'ennemi encerclera le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. On récolte ce qu'on sème. Ça, c'est on en a déjà souvent évoqué, mais dans Galates 6, 7 et 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Il y a une logique. Ils ne savent plus agir droit. C'est pourquoi l'épreuve va arriver. Et la Syrie a assiégé, l'ennemi encerclera le pays en l'an 722 avant Jésus-Christ. Il a détruit sa force, ses troupes, ses palais ont été pillés. Voici ce que dit l'Éternel, le berger ne peut arracher à la gueule du lion que deux jambes ou un bout d'oreille. Et c'est ainsi que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Tout le monde a compris, donc je passe au verset suivant. Je plaisante, c'est en fait une référence à une loi qui était signifiée dans l'Exode. Si vous aviez la charge d'animaux, et que quelque chose arrivait aux animaux dont vous aviez la charge, vous deviez prouver au propriétaire que c'était bien un accident qui était arrivé et il fallait lui montrer un bout de l'animal qui avait été mangé pour pas qu'il vous accuse d'avoir volé son animal. Et de la même façon, les Israélites qui sont bien confortables à l'angle d'un lit sur des tapis de Damas. C'est intéressant de voir qu'il y avait déjà tout ce savoir-faire de faire des tapis au Moyen-Orient. Eux qui vivaient dans le confort, le Seigneur va juste sortir des Juifs un reste, comme un bout de deux jambes ou un bout d'oreille. Tout le Nouveau Testament et l'Ancien aussi parlent d'un reste d'Israël. Paul dit même que tout Israël sera sauvé en parlant de ce reste, justement. Et puis il dit, écoutez et donnez cet avertissement à la communauté de Jacob, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de l'univers. Quand je vais punir Israël pour cette transgression, je vais détruire ces autels idolâtres qui avaient été construits, sur lesquels il y avait il y avait même un veau qui représentait une idole dans laquelle ils sacrifiaient des animaux. Les cornes de l'autel seront brisées. Typiquement, c'était les cornes de l'autel, on pouvait s'en saisir pour pas se laisser éloigner de Dieu. Ça sera même plus possible. Elles seront brisées, elles tomberont par terre. Et puis, il va démolir les belles villas, les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire seront détruits. Les maisons des grands disparaîtront, déclare l'Éternel. Il ne savait pas agir avec droiture. On verra dans le chapitre 4, on va commencer, qu'ils pensaient qu'à leur propre confort. Ils étaient très matérialistes. Et on a dit que c'était une époque où tout allait bien matériellement, mais spirituellement, c'était factice. C'était quelque chose de surface. Aujourd'hui, on pense peut-être qu'on n'est pas riche en France, mais il suffit d'aller dans des pays du tiers-monde, et certains d'entre vous voyagent, il y a même des gens qui sont originaires de pays moins bien lotis que l'Europe. On est riche comme Crésus. On est obligé de se motiver pour faire des régimes à la veille des vacances d'été. Jeûner, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de nourriture disponible à tout moment. Normalement, on a un endroit pour vivre, on a des soins disponibles, les soins médicaux en France. Ça coûte très cher, mais en même temps, c'est un confort inimaginable dans 95% des pays du monde, en population. J'avais un petit bobo, j'avais mal sous le pied, je me dis zut, c'est peut-être ce qu'on appelle une épine calcanéenne, je ne vais pas pouvoir marcher. Si j'étais dans un pays du tiers-monde, ben, je continuerais à marcher sans rien faire. Mais là tout de suite, je suis allé voir mon généraliste, parce que j'ai dit zut, je dois faire une randonnée à la fin du mois de juillet, faut que je puisse marcher, donc je vais voir si je peux faire quelque chose. Et pof, tout de suite une radio, pof, tout de suite des soins. Et Dieu merci, ça n'a pas l'air trop grave. Et je me dis, mais on est là, au moins de petits bobos, on va voir, on a accès. C'est pas mauvais non plus de ne pas laisser traîner les choses, mais ils vivaient dans le confort, ils avaient des villas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, on peut voir cette réalité. On voit la période qui précède. Avec les rois, on sait à peu près. Et on voit que les ruines des maisons étaient toutes à peu près pareilles, de petite taille. Et puis à l'époque de ces prophéties, on voit que maintenant, il y a des maisons, il y a des plans de maisons beaucoup plus grands. Ils étaient passés du 40 mètres carrés au 300 mètres carrés avec la richesse qu'ils s'accaparaient, et ça nous conduit au chapitre 4, où il nous est dit que il nous parle en nous disant « Écoutez cette parole », verset 1, on va lire ensemble. « Cette parole vache du Bazan qui est sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les faibles, qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris « Apportez à boire et buvons ». Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crocs et vos enfants avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacun devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, déclare l'Éternel. Il s'adresse comme symbole de cette manque de compassion, symbole de cet égoïsme. Il s'adresse aux femmes du peuple d'Israël qui accaparaient les richesses. Il a cette expression très forte, il les appelle des vaches du Bazan. J'espère, mesdames, qu'on ne vous a jamais traité de vaches du Bazan. En fait, ça fait référence à la prospérité de cette région qui se trouvait à l'est du Jourdain, où il y avait beaucoup de pâturages, de verts pâturages. C'est pour ça que certaines tribus avaient voulu rester de ce côté-là. Et donc, c'était des femmes prospères. C'est pas vache du Bazan, ça ne veut pas dire exactement des grosses vaches, comme on pourrait le dire de façon argotique, argotière, argot, en parlant de l'argot, en faisant de l'argot. Je regarde toujours les professeurs de français pour voir les réactions. Je dis des choses. Elles étaient sur la montagne de Samarie, mais elles opprimaient les faibles, elles les écrasaient les pauvres, et en plus, elles passaient leur temps à manger des bonbons et à regarder la télé. Non, elles buvaient, allongées sur leur canapé. Hop, elles demandaient à leur mari, « Apportez-nous à boire et buvons. » Et le Seigneur annonce ce goût du luxe, leur promet un jugement. Les Assyriens vont venir et on a expliqué qu'ils, lorsqu'ils faisaient marcher les colonnes d'esclaves, pour pas que les gens ralentissent la cadence, ils avaient un croc. Des hameçons pour les enfants dans les joues et des crocs aussi dans la peau des adultes. Et puis, il fait de l'ironie, verset 4, il leur parle d'hypocrisie. Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur l'Éternel. Il se moque de la fausse religion que professaient ces gens, et là il est en face du grand prêtre, entre guillemets, de Bethel, Amatsia, qui lui dit « Hé, prophète à la noix, là, rentre chez toi et viens pas nous embêter. » Il dit que c'est ce que Dieu leur annonce. Allez, continuez à aller à l'église tous les dimanches, mais vous n'en pensez pas moins, vous donnez la dîme, non seulement vous la donnez une fois par semaine, mais tous les trois jours, vous êtes formidables, continuez à faire vos sacrifices, allez-y, allez-y. Et puis il annonce le jugement, je vous ai envoyé la propreté des dents. Alors ça, c'est le texte original, il parle de propreté des dents, et beaucoup de nos Bibles ont déjà interprété pour nous, « Je vous ai envoyé la famine. » Si vous n'avez pas à manger, vous n'aurez pas d'épinards entre les dents. Vous n'aurez pas à passer du floss, même si peut-être il y aura des renvois de l'estomac, ou peu importe, mais « Je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toute votre demeure. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. » Verset 8, on va continuons, je crois que je me suis arrêté. Verset 4, allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage, offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours, offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain, proclamez, annoncez vos offrandes volontaires, c'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Cette expression, on va la retrouver 5 fois. Qui montre que les jugements de Dieu, ils ne sont pas destinés à nous accabler, à nous détruire, mais à nous faire revenir à lui. Et aujourd'hui encore, lorsque nous, des fois, nous traversons des épreuves, ça peut être, encore une fois, ça peut être des épreuves qui sont là parce qu'on vit dans un monde affecté par le péché, où on peut être touché par un attentat, on peut perdre des êtres chers dans un accident d'avion, mais aussi souvent, c'est des épreuves qui sont inspirés par Dieu pour nous ramener, pour réaliser qu'on va trop loin et nous aider à réaliser qu'on doit obéir à sa parole, qu'on doit le glorifier en lui obéissant. Plus de pain, la famine, mais vous n'êtes pas revenu à moi. Je vous ai refusé la pluie, la sécheresse maintenant, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2 ou 3 villes sont allées vers une ou autre pour boire de l'eau. Elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Et la sécheresse qui est inspirée par Dieu, on voit que ce n'est pas une sécheresse due à un réchauffement climatique global. C'est particulier et Dieu le fait pour qu'on réalise que c'est telle ville est touchée, telle autre ne l'est pas touchée, c'est parce que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui intervient, mais il n'empêche, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle, les moisissures sur les plantes, mais malgré cela, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. On pense que Amos était en partie contemporain avec le prophète qu'on a étudié avant, Joël. On a dit que Joël, c'était le prophète, le gars des sauterelles. Il y a eu des catastrophes écologiques et vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Il a utilisé la maladie. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. La maladie leur est tombée dessus. Des hommes sont morts par la maladie, des hommes sont morts par la guerre, par les combats. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. On vous a pris votre source de puissance, vos chevaux, et vous avez pu sentir l'odeur des cadavres. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu qui a du mal à comprendre que malgré son intervention qui veut nous interpeller, on continue dans le péché. C'est terrible. Je vous ai bouleversé comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe et vous avez été pareil à un bout de bois arraché à l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. On n'est pas sûr de la catastrophe dont il parle, c'est peut-être le tremblement de terre dont il était question plus tôt dans la prophétie. C'est aussi une évocation du feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et ils s'en sont sortis par le petit bout, un bout de bois arraché à l'incendie. Quand il y a un grand feu qui tombe sur quelque part et il y a un petit morceau de bois qui reste encore vert, il doit se dire, Soit il n'est pas croyant, il dit j'ai eu de la chance. Soit il dit merci Seigneur, le petit bout de bois. Les bouts de bois n'ont pas de relation avec Dieu de cette façon, mais une image. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Et verset 12, le jugement ultime, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. Ça, c'est aussi un verset qu'on a l'habitude d'extraire de son contexte. C'est toujours vrai. Vous pouvez le mettre en devise. Plusieurs années, on nous avait prêté une voiture et à la place du mort, là, à droite, il y avait ce verset collé sur le pare-brise ou le « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Waouh ! C'est... Là, il veut dire, en fait, il sera trop tard pour se repentir. Prépare-toi, ça va chauffer. Alors, c'est vrai qu'en même temps, on doit se préparer à rencontrer notre Créateur, rencontrer notre Dieu. Et ça, on le fait en venant à Jésus-Christ, pour nous qui sommes de ce côté de la croix. En réalisant qu'on a péché et qu'on veut revenir à lui. C'est le mot repentance, c'est le changement de direction. On revient à Dieu, on demande pardon et on revient à Dieu. Et Dieu est ce Père du Fils prodigue qui attend qu'on revienne à lui, tous autant que nous sommes. Même sa création qui ne l'a pas encore reconnue comme Dieu, nous sommes invités à nous repentir, à revenir à lui. Pas prétendre qu'il n'existe pas, que tout ce qui nous arrive de bien c'est de la chance ou c'est dû à une étoile. Bizarre ça. Penser qu'en fonction de la position des étoiles, quand je suis né, si je suis le troisième des camps, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui lui est né à une autre période, mais il y avait un alignement des planètes, donc ça va marcher entre nous. Je plaisante à peine, mais tristement, c'est l'état où on en est réduit dans notre monde soi-disant scientifique, mais il y a des horoscopes dans tous les journaux. Pourquoi ? Parce que les gens savent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux, mais ils ne veulent pas reconnaître Dieu. Donc ils disent, la plus grande chose qu'on voit, c'est les étoiles, donc ce doit être les étoiles qui nous contrôlent. En fait, c'est très intéressant, c'est un autre sujet, et on y reviendra peut-être. Les étoiles déclarent l'Évangile. C'est fascinant, passionnant. Et puis, il termine par un chant à la gloire de Dieu. En effet, c'est lui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent, lui qui a fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Alléluia. Quand on a la bonne perspective, on peut se réjouir des difficultés que nous rencontrons, parce qu'elles nous montrent que Dieu nous aime, et qu'il veut nous ramener à lui, et lui, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui comprend tout. Même les choses cachées qu'on ne connaît pas. Il change l'aurore en ténèbres, et les ténèbres en aurore. Il marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. C'était le nom, la signification du nom du prophète Joël. Dieu est l'Éternel. Le prophète Amos, son nom veut dire porteur de fardeau. Il a le même fardeau que Dieu a devant nous lorsqu'il nous voit nous égarer et nous pécher. Il voudrait tellement nous corriger. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette prophétie que tu as révélée à ce prophète qui était un homme comme tout le monde, simplement. Il t'écoutait, il prenait le temps d'être au silence. Sa profession, sans doute, loin du tumulte des villes, l'encourageait à tendre l'oreille vers toi. Seigneur, aide-nous à tendre l'oreille vers toi aujourd'hui, malgré le bruit, malgré les activités qui nous sollicitent de tous les côtés, nos réseaux sociaux, nos télés, nos sports, nos tournois, nos grèves, nos manifestations. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous ne prenons pas le temps de t'écouter. Donne-nous de faire silence et de voir que tu as un fardeau pour chacun de nous, Seigneur. Tu voudrais tellement nous voir sauvés, Seigneur. Paul nous le dira, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Merci Seigneur pour cet amour. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.